Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de fin de séance. C'est Areski Sugar qui vous parle. Pour vous dire que je suis en spectacle actuellement au Théâtre Beau-Saint-Martin à Paris. Donc si vous voulez venir voir une superbe heure de stand-up, n'hésitez pas à prendre vos places. Il reste des places pour les trois dernières représentations de la saison. Le 15 juin, 28 juin et 12 juillet. N'hésitez pas à aller sur Bireduc ou suivre les liens depuis la description du podcast ou aller sur sugarfree.com. Merci à tous. Profitez bien de cet épisode. Bisous.
Petit épisode qui nous va bien, puisqu'en période de confinement, on a plein de VOD, donc on va se régaler à parler de petits films en home direct cinéma. Je vous ai fait passer du coup une liste qui circule un peu partout. Là, on avait un lien sur Première de 31 films validés pour sortie anticipée, c'est-à-dire des films qui étaient au cinéma il y a genre un mois et quelques, et dont on a décidé de faire profiter un maximum de gens rapidement. Voilà. Yes.
Oui, puisque normalement, il y a la fameuse chronologie des médias qui fait qu'après une sortie au cinéma, on doit attendre 4 mois, c'est ça ? 4 mois.
Ouais, c'est ça, 3-4 mois.
Pour l'avoir en VOD ou en Blu-ray, etc. Et donc là, étant donné le confinement, le CNC a décidé, bon allez, pour 30 films, vous allez pouvoir les regarder à la maison.
On est cynique ou on se dit que c'est de la générosité, ou on est cynique et on se dit que c'est pour faire rentrer un max de blé de VOD, qu'en pensez-vous?
Ouais, je pense que c'est un petit peu pour limiter les pots cassés, c'est-à-dire qu'au moins ça permet d'engranger de l'argent sur des films qui ne peuvent pas en engranger, je pense que c'est un peu ça.
Moi, je pense que c'est les deux, ouais. C'est pour engranger le max d'argent et pour aussi aider un peu des films qui auraient galéré autrement, quoi. Parce qu'un film qui est sorti il y a un mois, il y a certains qui seraient peut-être restés en salle encore.
Ouais.
Tu vois,
ouais, complètement.
Vu que là, ça fait 3 semaines
ouais.
qu'on est confiné. Donc, ça veut dire qu'ils ont eu une semaine d'exploitation en salle.
Ouais, c'est vraiment pas assez pour effectivement avoir le petit bouche à oreille qui aurait dû avoir, etc. Mais ouais.
Voilà, donc dans cette liste, c'est assez éclectique, il y a plein de choses. Moi, il y a des choses qui m'attirent, hein. Il y a notamment ces petites comédies françaises. Il y a le hashtag Je suis là avec Alain Chabat qui avait l'air assez léger, assez fresh, assez cool. Il y a aussi Selfie avec Blanche Gardin. Que j'aimerais beaucoup voir. On a aussi le fameux 1917 de Sam Mendes. Yes. Y a aussi donc Birds of Prey. Y a Papy Sitter aussi, même si ça m'intéresse un peu moins.
ce qui est marrant, ça va être que, par exemple, tu vois, on parlait des films français qui veulent surfer sur la vibe de « Tout est connecté », hashtag je suis là et selfie, bah c'est assez ironique que bah au final il soit peut-être plus regardé sur les écrans à la maison
clairement
qu'au ouais. cinéma
clairement.
Après dans toute la liste, bah moi je vais recommander le cas Richard Jewell de Clint Eastwood qu'on avait fait là, l'épisode 94 je crois de fin de séance, qui est vraiment un bon film pour le coup. C'est autant prendre le temps de regarder un bon film de cinéma. Et 1917, je l'ai toujours pas vu d'ailleurs, mais je sais que tout le monde m'en a dit du bien. Toi, tu l'as vu
Non.
Le dernier Sam Mendes,
non. Non.
Qui était quand même dans pas mal de top 10 de l'année 2019.
Donc, yes.
Ouais. Autant, moi, je préfère commencer par les très bons films, mm-hmm. tu vois, et petit à petit aller vers peut-être ce que j'aurais pas checké. De manière générale, je ne recommande absolument pas Birds of Prey et La fantabuleuse histoire de Harley Quinn, qui est un film assez médiocre, voilà, des DC Comics, qui se veut, tu sais, un film d'empouvoirment féminin, etc. C'est juste, mais c'est juste que c'est mal écrit, hein. Voilà. Donc, désolé.
Et toi, Fela, il y a des trucs qui te plaisent là-dedans?
Ah non, il y a rien qui me dit du tout. Même pas un tout petit peu. Par contre, pour Selfie, je vois qu'il y a 5 réalisateurs différents.
Ah oui, c'est bizarre.
C'est une erreur d'halluciner ou...
Ah oui.
Okay.
Peut-être que le film est en différentes petites pastiches ou des trucs comme ça, je sais pas du tout.
Ouais, est-ce que c'est un peu comme le Infidèle avec tous les courts-métrages là, peut-être que
c'est ouais, exactement, un peu comme ça. Ouais,
oui, effectivement, il y a 14 000 réalisateurs, ouais.
C'est bizarre. Après, moi, je dirais que ouais, pour les choses que je n'ai pas vues, mais je me dirais que ça peut être intéressant. Le dernier Assayas, Cuban Network,
oui.
Avec Penelope Cruz, Edgar Ramirez et Gael Garcia Bernal, quand même, j'ai envie de dire, des têtes d'affiche assez ouf, qui parle d'un groupe cubain à Miami qui met en place un réseau d'espionnage dans les années 90. Donc, bah voilà, là typiquement, le synopsis m'intéresserait, mais c'est vrai qu'on n'en a pas trop entendu parler. Alors qu'il est sorti fin janvier, donc je sais pas. Et puis un film français qui s'appelle La fille au bracelet, de Stéphane Demoustier, avec notamment Roche Dizem, qui parle d'une jeune fille dans un quartier résidentiel qui porte un bracelet car elle est accusée d'avoir assassiné sa meilleure amie.
Nice. Ok. Bah ça va nous amener à notre petite discute du jour, du coup, parce que la question qu'on se pose, c'est est-ce que le Covid va tuer les salles de cinéma, parce qu'il y a plein de, je sais pas si vous avez vu, mais il y a plein de gens qui s'inquiètent. Bon, déjà les salles de cinéma sont fermées, ça c'est la première chose. Les salles de ciné fermées conjuguées à l'explosion intersidérale des plateformes VOD, Disney Plus qui arrive, bouleversement total des sorties ciné. Je sais pas si t'as vu, mais apparemment il y a des gens qui disent qu'on n'aura pas notre summer blockbuster season. Il y a Tenet de Christopher Nolan qui a été repoussé.
C'est vrai.
Il y a plein de films qui sont repoussés. Les tournages sont annulés. Il y a une crise dans le milieu du cinéma avec pas mal d'intermittents qui sont sur le carreau, qui savent pas s'ils vont pouvoir bosser. Enfin voilà, il y a tout ça. Est-ce que vous pensez que notre façon de consommer la salle de cinéma va être bouleversée, ou est-ce que de façon plus dramatique, on peut voir un changement radical dans la salle de cinéma?
Alors moi, je pense qu'on pourra avoir une petite baisse de fréquentation du cinéma après le déconfinement, dans le sens où les gens ils vont pas forcément vouloir être dans un espace clos, spécialement quand il va commencer à faire beau, etc. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant dans ce que tu as dit, c'est qu'il va y avoir aussi un problème qui va se répercuter dans le temps, dans le futur, dans le sens où là, les tournages ont été arrêtés. Donc, il va y avoir une période, je ne sais pas, peut-être dans 6 mois, 1 an, il va y avoir une période d'un ou 2 mois, peut-être, où il va y avoir moins de films qui devraient sortir. Et peut-être que ça donnera plus leur chance à des petits films que d'habitude, qui sont normalement phagocytés par un marketing plus grand sur de plus grands films. Donc moi, j'ai envie de voir le côté positif, de me dire que peut-être que dans un futur moyennement proche, pendant 1 ou 2 mois, on va plus mettre l'accent sur des films qui normalement seraient passés un peu plus inaperçus. Tu vois ? Voilà, je sais pas.
Moi, je suis pas sûre que ce soit qu'on puisse identifier ça, enfin qu'on pourra identifier ça à un moment précis, parce que j'ai l'impression que c'est très lissé en fait sur l'année. Il y a pas une corrélation directe entre le film qui est tourné maintenant, il sort à telle date. C'est très variable d'un film à l'autre, que ce soit déjà entre les films français, les films américains, tout ça. Donc je suis pas sûre qu'on pourra vraiment l'identifier, mais je suis d'accord avec toi que effectivement il y aura peut-être sur l'année prochaine un petit peu moins de gros films qui vont sortir, donc peut-être plus des films qu'on n'aurait pas forcément vus, qu'on va
plus voir,
ouais.
Est-ce que ça vous manque d'aller au ciné?
Bah moi j'y vais jamais d'habitude déjà, donc
franchement pas spécialement. Ouais, après nous, l'expérience ciné est cool, mais on en parle souvent. Enfin plus, toi et moi, on a un bon home cinéma.
C'est ça.
Et c'est vrai que si tu me dis, il y a pas mal de films déjà que je vais voir mine de rien au cinéma et qui sont sortis depuis un mois. Donc si tu me dis que là, avec de la VOD anticipée, au final je vais les voir au même moment où je serais allé les voir au ciné, c'est plutôt pas mal. Après ça ça me manque pas pour l'instant, en tout cas.
Moi, je sais que j'ai un point de vue assez blasphématoire pour tous les puristes du cinéma, mais moi, je comprends pas trop l'intérêt du cinéma, en fait. Je comprends pas trop l'intérêt de sortir de chez moi, me déplacer pour aller dans une grande pièce avec des inconnus qui vont peut-être faire des choses qui vont me déranger. Genre du bruit, manger des chips, enfin tu vois, payer très très cher pour faire ça, alors que je pourrais faire exactement la même chose chez moi, dans mon canapé, avec des snacks gratuits, dans des conditions que je maîtrise moi, où je peux mettre le truc en pause si j'ai envie de pisser, enfin vraiment, je vois pas du tout l'intérêt, moi c'est, le cinéma c'est pas...
Est-ce que de toute façon, tout type de communion humaine est morte, et donc effectivement du coup le cinéma, parce qu'en fait c'est ça qui compte, et moi les bons moments de cinéma que j'ai en tête, c'est parce que il y a une vibe dans la salle où tout le monde est un peu sur la même longueur d'onde, tu vois. Je fais toujours référence au moment, tu vois, à voir Rec avec une salle pleine qui fait oh! au même moment, tu vois, et ça vaut le coup, mais après je suis d'accord qu'il y a le coût bénéfice-risque, c'est-à-dire que pour combien de moments de communion dans une salle de cinéma, on a eu un gars qui a parlé trop fort derrière ou qui ronfle.
Ouais, je suis d'accord. Est-ce que t'avais entendu ce Rogan où il paraît qu'il y a un... C'est un truc de niche, ça, qui se développe aux États-Unis. Tu sais, les ultra-riches, il y a des startups qui proposent des services de projection de films à domicile.
Ouais, c'est le mec qui a créé Napster, le gars qui était joué par Justin Timberlake dans Social Network, qui a créé ça. Je crois que c'est quoi, tu payes $50 un film pour le voir chez toi, alors qu'il est au cinéma en ce moment. Voilà, c'était un truc un peu comme ça.
Ouais. Je crois qu'on va se diriger vers l'explosion de ça, en fait. C'est-à-dire que déjà... J'ai pas l'impression, je pense pas que ce sera là où je rejoins un peu Fela, c'est que effectivement les calendriers sont pas assez sont un peu lissés, donc du coup c'est pas comme si on tournait un film pour le sortir la semaine d'après, quoi. C'est des calendriers sur des années, et il me semble que ce qui risque de changer, c'est que le concept de la VOD à la maison, un peu home cinéma, ça va aggraver ce qui avait déjà commencé, depuis oui. quelques années avec
oui,
Netflix.
Oui, voilà. C'est un accélérateur.
Mais c'est juste un accélérateur de VOD. Et puis, comme tu dis, la démocratisation et la vulgarisation généralisée des bons hommes cinéma aggrave ça aussi, quoi. C'est-à-dire que dans les années, on sait tous que dans les années 90-2000, le gars qui avait une télé genre de 90 cm de diagonale, il y en avait un dans le quartier. Mais à part ce gars, t'étais quand même obligé d'aller chercher le divertissement technologique au cinéma, alors que maintenant c'est vrai que t'as une bonne télé, t'as une bonne barre de son, faut arrêter, tu passes un bon moment aussi, quoi.
Ouais, complètement d'accord. Ouais, je sais pas, est-ce que ça va changer, est-ce que les gens vont se dire finalement t'as vu, mais non, parce qu'en fait ça va être les cinéphiles qui vont déjà au cinéma, ils continueront à aller au cinéma, parce qu'une personne qui va pas trop au cinéma, en vrai, le confinement va pas lui changer. Enfin, il ira tout autant, je pense, en moyenne. Ça m'étonnerait qu'il aille moins.
Est-ce que UGC, ils ont communiqué, ils vont te rembourser ton pass ou pas ? Comment ça se passe ?
Oh, putain, c'est une très bonne question, ça. Je sais pas du tout. Je vais leur faire un petit courrier. Un petit courrier bien corsé. Je comprends pas. Tous les cinémas étaient fermés. Je vois pas pourquoi j'ai à vous payer. Ouais, non, t'as trop raison, en plus. Ouais. D'ailleurs, petit lancement à tous les auditeurs, vas-y, on crée une class action pour que UGC nous rembourse nos passes.
C'est ça, tu serais un peu le Erin Brockovich de Saint-Michel.
Pour gagner 20 € par personne. ça fait pas mal de rouleaux de PQ, hein, mine de rien.
Ouais.
Ouais. Est-ce que juste avant de passer au film du jour, je vous passe les recommandations cinéma qui était envoyé par divers invités. Et là, il y a Emma qui nous propose 3 films à regarder pendant ce confinement. Et voilà, vous allez pouvoir nous dire ce que vous en pensez.
Alors, ma première recommandation à moi, ce serait Old Boy de Park Chan-wook, qui est, je pense, mon film préféré. Tout à fait dans le thème du confinement, puisque c'est l'histoire d'un homme qui est enfermé pendant 18 piges et qui, une fois sorti, est animé par la haine. Donc c'est sans doute ce qui va nous arriver. Donc ça, c'est très très bien déjà. Ensuite, vu que Old Boy s'est inspiré quand même de Monte Cristo, eh bien, faut regarder le téléfilm du Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Mais c'est donc fait par José Dayan, il y a Gérard Depardieu, il y a Pierre Arditi. Enfin, c'est vraiment genre les tauliers du cinéma français, etc. Et c'est, je sais pas, c'est genre des années, fin des années 90, je pense. C'était hyper bien. Il y a 4 téléfilms. Et vraiment, c'est bien joué, bien fait. Ça fait gagner genre 6-7 heures sur le confinement. Et franchement, trop bien. Et en dernier, c'est sur Netflix. Ça s'appelle Willy Premier. C'est un film incroyable avec 17 euros de budget. Il y a 4 réalisateurs d'après la fiche Wikipédia. Donc là, je saurais pas vous dire les noms. Mais Willy Premier, retenez, c'est trop bien. C'est une espèce de drame social avec un peu de comédie du millième degré. De la gestion du malaise et une musique incroyablement est-allemande des années 80. C'est sublime. Vraiment, allez le voir, c'est trop bien.
Voilà, ça c'était les recommandations des films d'Emma que vous pouvez retrouver dans plusieurs épisodes, mais notamment le dernier, justement, sur le cas Richard Jewell de Clint Eastwood. Qu'est-ce qu'on en pense? Je connaissais pas Willy Premier sur Netflix.
Mmh. Pareil.
Donc, j'irai checker ça. Ouais, c'est parfait. Alors, Netflix... par contre, là, retrouver les téléfilms du Comte de Monte Cristo, je sais pas où est-ce qu'on pourrait le retrouver. J'ai des souvenirs de ça dans mon enfance d'ailleurs, de voir Gérard Depardieu là, mais je sais pas du tout où est-ce qu'on peut trouver ça. Mais c'est vrai que ça me donne envie. Est-ce que c'est pas le bon moment aussi pour les mini-séries, tu sais, les téléfilms événements, tu sais, de l'époque qui faisaient 3 fois 1h30. Tu te régales, t'as le temps de faire tout ça.
Très bonne recommandation d'Emma, hein, que je salue d'ailleurs, petit bisou à Emma, et du coup on rappelle que on peut l'entendre aussi dans l'épisode sur Le Chant du Loup, bon film de confinement dans un yes. sous-marin,
ah oui,
également, et et effectivement All Boy aussi, excellent choix, valeur sûre, mais du coup je vais aller découvrir le Willy Premier avec plaisir.
Aujourd'hui, le film d'aujourd'hui, c'est The Hunt de Craig Zobel avec Betty Gilpin, Hilary Swank, Emma Roberts notamment. Alors, sur fond d'obscure théorie du complot sur Internet, un groupe de dirigeants se rassemble dans un manoir retiré afin de se divertir en chassant de simples citoyens américains. Petit clip.
Je sais pas m'en servir.
Tu vises, tu tires.
Tout le monde à terre!
Je sais ce que c'est. C'est le Manor Gate. Tous les ans, une élite friquée kidnappe des gens normaux comme nous. Où est-ce qu'ils vous ont enlevé?
Dans le Wyoming.
À Orlando.
Dans le Mississippi.
Ce n'est pas une plaisanterie. Ils chassent des êtres humains pour le plaisir.
Ce ne sont pas des êtres humains.
Ok, bah du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de The Hunt? Alors, juste pour préfacer un petit peu, The Hunt devait sortir normalement en août 2019. Aux États-Unis, sauf qu'il y a eu une série de 3 tueries de masse d'affilée l'été dernier aux États-Unis. Et donc, le film a été repoussé au début de cette année. Et finalement, bah, pas de repas de bol, puisque ça tombe pendant le confinement. Du coup, ça, je crois que c'est Sony qui a décidé de faire sortir finalement ce film directement. En VOD, donc en location, pas en achat, vous pouvez pas l'acheter, mais vous pouvez au moins le louer, voilà, et le regarder. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé du film The Hunt de Craig Zobel?
Moi j'ai bien aimé. Je suis pas du tout le public à qui s'adresse ce genre de film, parce que Areski m'a dit c'est un film un peu d'horreur, thriller, machin. Moi, j'aime pas l'horreur, j'aime pas la violence, j'aime pas l'angoisse. Donc, j'y suis allée un petit peu à reculons. Les premières minutes, je me suis dit que j'allais mourir. Parce que ça commence assez violemment. Enfin, voilà, c'est un peu stressant, tout ça. Mais, et c'est aussi un peu gore dès le départ, et je suis pas une grande fan de gore. Mais après, moi, j'ai passé un bon moment. Alors, le début du film est très chouette. Après, il y a quand même plusieurs ventres mous. Il y a des moments où c'est un peu pénible. Que ce soit... ouais, après le tout début... quand est-ce que je t'ai dit c'est pénible, là?
bien.
Oh, je sais plus. Bon, y a plusieurs périodes où quand même j'ai trouvé ça un peu pénible. La scène finale, je l'ai trouvée longue. Mm-hmm. Où t'as envie de dire c'est bon, on a compris. Je trouve que des fois, ils s'expliquent un peu trop. Il y a des scènes où tu vois vraiment qu'ils ont fait les scènes pour expliquer le propos du film. Et elles sont un petit peu lourdes. Moi, ce que j'aime bien dans ce film, c'est que ce que j'ai beaucoup... J'ai adoré le début du film où tu vois des acteurs connus et qui butent en 4 secondes. Ça, je trouve ça génial, quoi. Tu vois, au début, on te montre Emma Roberts, donc tu te dis « Ah, ben c'est cool, c'est elle l'héroïne du film !» Et elle crève en 4 minutes. Ils font ça, pareil, avec l'autre, là, je sais pas comment il s'appelle, puis avec Ike Barinholtz aussi, qui bute assez rapidement. Donc voilà, l'héroïne, hein, la nana de Glow, là, je sais pas comment elle s'appelle, Betty elle est Gilpin. Géniale. Je la trouve vraiment... trop bien, cette actrice. Et dans ce film, elle est... j'adore son personnage et j'adore comment elle le joue. Voilà. Après, sur le message du film, je suis partagée parce que tu as un côté où donc c'est un truc de lutte des classes. Et c'est poussé à l'extrême, en fait. C'est excessivement caricatural. Je sais pas si c'est pas du spoiler, du coup, là.
Ce que tu as dit avant, c'était du spoiler. Mais...
Ah, super.
Mais la lutte des classes, je pense pas, parce qu'on comprend, on comprend vite que au final dans ce film ils ont interverti les réacs et les libéraux américains, mais ça ils le montrent dès le début, c'est-à-dire que pour une fois les chasseurs sont pas des millionnaires sudistes. Mania de pétrole, mais ce sont des milliardaires de géants de la tech, quoi, tu vois, ouais. Qui eux sont les garants de la bonne culture woke, etc. Donc, mais toi, tu trouves que c'était trop caricatural, du coup ?
Non, je suis pas sûre que je trouve ça trop caricatural parce que il y a un côté où justement les libéraux, comment ils sont dépeints. C'est très caricatural, mais d'un autre côté, j'ai l'impression que la société américaine et aussi un petit peu la société française sont en train de devenir caricaturales. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les gens, ils sont de plus en plus excessifs,
ouais,
dans leur pensée, et il y a un schisme qui est de plus en plus important. Et donc, oui, c'est très caricatural, mais est-ce que c'est... pas un peu vrai,
ouais.
Je pense pas.
Jean-Yves,
j'ai passé un excellent moment, un excellent moment, du bon plaisir de divertissement à la limite du, un petit peu avec le même un petit peu plaisir sadique qu'ont les gens à tirer sur des gens dans un champ. Je me suis bien régalé. On va arrêter de se mentir, on va dire à tout le monde qu'on a tous regardé le film avec un petit bloc-notes et qu'on a fait la liste des gens qu'on mettrait dans le champ aussi. Donc ça, c'est la première chose. J'ai vraiment j'étais un peu surpris par la qualité de mise en scène du film, puisque par rapport à ce que j'avais entendu, je m'attendais plutôt à un truc un concept, c'est-à-dire voilà, on surfe quand même sur quelque chose qui existe déjà, quoi. Voilà, il y a Hostel de Eli Roth à 15 ans, American Nightmare, tout ça. Et là, j'étais surpris parce que même si on est sur cette vague, ben, il y a un petit plus, level up de niveau, ouais, en termes de mise en scène. Et comme toi, Fela, j'ai adoré ce qui se passe au début avec Emma Roberts. J'ai même éclaté de rire, je crois. Et en fait, pendant... au moins la première moitié du film, j'étais vraiment en régalade du rapport de force permanent qui est imposé, de la surprise que tu as à chaque fois, te demander what the fuck, et qui c'est qui est en contrôle de la situation.
Ouais.
Ça, c'était très, très, très agréable. J'ai bien aimé le propos social, le propos lutte des classes, le côté... Moi, justement, j'ai bien aimé le côté louf. Par exemple, tu vois, il y a Dennis de It's Always Sunny in Philadelphia,
oui,
qui joue à la perfection le douchebag hipster de Californie, quoi. Ouais. C'est-à-dire le gars qui est
en kimono de soie.
Il est en kimono de soie. Et d'ailleurs, la scène d'intro où il a ce dialogue complètement infect avec l'hôtesse de l'air, c'est absolument génial. Il se fout trop de sa gueule. Enfin, c'est vraiment, c'est assez subtil en fait, je trouve. Et voilà, par moments, des fois, il y a un manque d'équilibre sur cette subtilité. J'ai bien aimé le côté. Un peu blague à la cabane dans les bois, tu sais, il y a des moments des fois où t'es là, genre, t'es un peu en mode comédie, quoi, ouais. C'était cool, ça avait le mérite, en fait, de désamorcer, on n'était pas dans un, parce que comme toi, Fela, j'aime pas trop, enfin, le concept de regarder des gens qui se font torturer pour le plaisir d'être torturé, je vois, enfin, c'est pas trop ma cam, mais là, il y a quand même un côté un peu décalé que j'aime bien, j'adore la performance de l'actrice principale, de Betty Gilpin, qui est la Uma Thurman Kill Bill du film, un peu, on va dire ça comme ça, et on en reparlera, mais elle est vraiment géniale. Ouais, donc franchement, alors effectivement, je rejoins ce qui est dit, c'est-à-dire que la deuxième partie du film, troisième acte, est un peu en dessous. Confrontation finale, pareil, un peu pas à la hauteur de ce qu'il y a avant. Mais dans l'ensemble, voilà, c'est un film à largement conseiller pour un bon divertissement pop-corny du samedi soir.
Ouais, complètement d'accord. Bah, pareil, moi j'ai passé un excellent moment. Et ce qui est intéressant, c'est que le film, il est marketé. Enfin, moi j'avais vu un morceau de la bande-annonce. C'était Battle Royale, tu vois, numéro 7, quoi. Comme on en a vu des milliers. Donc, je me suis dit, oui, bon, ok, ça va être encore un film à 5 ou 6 sur 10, tu sais, on va juste. Et effectivement, la prise de parti de prendre tous ces acteurs un peu connus. De The CW et de les buter dès le début. Et tu te dis, mais attends, mais je comprends pas, ça va être qui le protagoniste de ton film? Et le fait même d'avoir ça, je me suis dit, ok, là, je vois l'œuvre de quelqu'un qui a quand même un peu plus réfléchi à son film que juste le concept, tu vois, que juste le gimmick de on met des 12 personnes dans un champ, quoi. Là, tu parlais du fait que c'était, y avait des choses qui n'étaient pas subtiles dans les propos, dans les dialogues de certaines personnes. Et c'est normal, ça se voit que c'est un film aussi un peu de scénariste. Et c'est Nick Hughes et Damon Lindelof qui l'ont écrit. Deux scénaristes de Lost, Watchmen, Leftovers. Donc je pense qu'ils ont voulu déconner, quoi. Ça, c'est vraiment un film un peu de scénariste. Et d'ailleurs, Craig Zobel, le réalisateur, il avait réalisé des épisodes de Leftovers, Watchmen, etc. Donc, en gros, je pense que c'est vraiment des potes et qu'ils savaient vraiment qu'est-ce qu'ils voulaient faire de ce film. Et ce qu'ils voulaient faire de ce film... Alors, c'est drôle que tu dises, effectivement, il y a des choses, parfois, c'est un peu caricatural. C'est que malgré les caricatures des deux côtés, parce qu'en fait, tout le monde s'en prend plein la gueule, ça a quand même créé polémique aux États-Unis. Dans le sens où, voilà, les républicains se sont dit « oui, on se fout de la gueule des républicains » et les libéraux se sont dit « oui, on se fout de la gueule des libéraux » sans se rendre compte qu'on se foutait de la gueule de l'autre camp aussi. Et c'est justement tout le propos du film de dire « arrêtez d'avoir des camps, en fait. Vous êtes débiles d'avoir des camps. » Et que les gens arrivent à passer à côté de ça, je trouve que... Et de s'énerver justement contre ça, ça me fait vraiment rigoler. Bon, la même chose pour vous tous, je pense qu'on passe à une moitié de film assez ouf, à rigoler tout le temps, à prendre beaucoup de plaisir. mini perte de rythme, effectivement. On va dire, je pense, aux deux tiers, et une fin un peu moins climactique ou un peu plus longuette, tu vois. Je sais pas s'ils ont voulu faire un clin d'œil à They Live, tu sais, avec une baston interminable, sauf qu'elle a pas de... Il n'y a pas de choses très drôles, quoi, à rajouter à ça. Et Betty Gilpin, excellente. Enfin, elle a des... On ne sait pas si elle est censée jouer quelqu'un qui a un stress post-traumatique ou quoi, tu sais, qui est un peu genre, il lui faut peut-être un rendez-vous de psy de plus par semaine, tu vois. mais elle est géniale pour ça, et puis comme d'habitude, et là on continue sur ce qu'on avait pu dire depuis ces derniers temps sur le cinéma hollywoodien. Il y a une conscience politique qui émerge dans les films hollywoodiens. Il y a des trucs de répartition des richesses, de choses comme ça, qu'on attend d'habitude, pas du tout, du tout d'Hollywood. Et là, tu vois, avec des films comme Joker, etc., il y a quelque chose. Il y a des gens qui essaient de dire par des films plutôt mainstream, changeons quelque chose, ce qui est extrêmement rare d'habitude. Voilà.
C'est quand même assez incroyable, quand même, parce que je ne sais pas si vous êtes allé revoir le tweet de Trump. Trump sort un tweet. Il n'a pas vu le film, il n'a vu que la bande-annonce, donc il n'a que le juice un peu principal du truc. Et donc, il dit clairement, il dit, voilà, donc on sait que voilà, Trump, il n'aime pas la Californie et vice-versa, et la Californie, c'est hipster bobo, Hollywood, tout ça. Et il dit, voilà, ce sont des libéraux démocrates d'Hollywood qui chassent des... Alors il dit pas des rednecks.
Ben ouais.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même... Il dit, quelqu'un qui se sent électeur de Trump est censé dire, ah d'accord, donc j'appartiens à ce groupe de rednecks. Je suis censé du coup être fier d'être redneck. Tu sais, il y a un truc très bizarre qui se passe au niveau de récupération de groupe,
ben,
en fait.
C'est ça, parce que t'es obligé d'être dans un camp. Du coup, si la personne te définit en étant, bah oui, si t'as voté pour moi, donc t'es forcément dans ce champ à te faire tirer dessus, t'es obligé de dire, bah oui, je suis
voilà,
un tel.
C'est ça, exactement.
Mais surtout que, je rebondis sur ce que tu disais, tu dis tout le monde en prend pour son grade. Je suis pas d'accord avec toi. C'est-à-dire que les gens qui sont chassés, ils en prennent pas vraiment pour leur grade. Le seul truc qu'on dit d'eux, c'est... Enfin, on dit qu'ils sont racistes, on dit qu'ils sont homophobes, on dit qu'ils sont complotistes, mais on les voit à aucun moment l'être. Alors que les libéraux, ils sont quand même assez tournés en ridicule. Et c'est assez, je trouve, intelligent et déstabilisant, par exemple pour moi, parce que moi, politiquement, je vais être d'accord avec les gens qui disent le réchauffement climatique, c'est mal, le racisme, c'est mal. Et en fait, ils tournent en ridicule la dérive de ça, mais ils tournent jamais en ridicule.
Alors, et c'est ça, le truc, c'est que c'est plus subtil pour les victimes,
oui.
Parce qu'en fait, et je pense que c'est là où aussi moi je trouve ça intelligent, c'est qu'en fait, on voit d'abord le fait que ce sont des humains, mais c'est subtilement dit que ce sont des connards. C'est-à-dire qu'à un moment, on voit les photos de toutes les victimes, et par exemple, il y a une meuf qui est dans une manif, stop being gay. Tu vois ? Il y a un autre gars qui est raciste. Mais c'est des trucs qui te sont donnés vraiment pendant une demi-seconde, mais que c'est avant tout des humains qui sont en train de se faire chasser.
Oui, mais c'est aussi, je pense, qu'eux partent du principe qu'on sait que c'est des trous du cul. Il n'y a pas besoin de le prouver, tu vois. Genre, à partir du moment où on te dit que quelqu'un est raciste, t'aurais le droit...
Voilà, mais justement, là, c'est le contraire, dans le sens où, non, d'abord, tu empathises avec un être humain, et c'est vrai que, du coup, le fait de dire après, en fait, cette personne, elle est homophobe, le fait de le faire dans cet ordre-là, tu dis, ouais, mais tu n'as pas à le tuer. Alors que c'est vrai que si tu l'avais fait dans l'autre sens, tu te serais dit, ouais, mais bon, on s'en fout.
Mais du coup, au final, le truc aussi que, tu vois, en parlant d'empathie et tout, le truc, c'est qu'à la fin de ce film, tu n'as plus d'empathie pour personne.
Ben, en fait, enfin, pas d'empathie pour les gens qui veulent être dans un camp, en fait. Et je trouve que, bon, de toute façon, on s'en fout, on a commencé à spoiler, et je trouve que c'est ça, le truc intelligent aussi de dire, mais désolé, la meuf, elle vient du Mississippi, ça veut pas dire que... elle sait servir d'une arme, mais elle a quand même lu George Orwell. Tu ne connais pas la personne avant de la connaître, et arrête de préjuger de choses, arrête de vouloir mettre des gens dans un camp, etc., etc. Donc je pense que c'est un peu ça le...
C'est une des critiques qui avait été faite. J'ai parcouru quelques critiques américaines sur le film, et il y a quelques critiques qui regrettent le manque de n'être pas rentré avec assez de profondeur dans le sujet. Et c'est pour ça que des fois, tu as vraiment l'impression que scénaristiquement, tu sais, on est sur du loufoque, et on a un peu peur de rentrer trop en profondeur, parce que soit on sent qu'on n'aura pas les moyens de le faire, ou alors on sent que ça peut vraiment déséquilibrer le côté marrant du film. Ouais. Tu vois ? Et
moi, je dirais que c'est pas leur job. Leur job là, c'était de nous offrir un film comme ça. Parce qu'en fait, c'est tout le temps un truc qu'on reproche aux personnes qui font un film qui ont un propos politique. Genre, ça va pas assez loin, ça fait pas. Non, mais au moins, ils ont fait un film qui avait un tel propos et qui est fun à regarder. Derrière, combien d'autres films soi-disant fun à regarder ont des propos problématiques et personne ne les critique, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est tout le temps, on critique tout le temps les gens qui sont plus intelligents. Pas, ouais.
Non, mais du coup, ça veut dire que ça témoigne quand même d'une demande pour cette analyse-là, que les gens sont en train de réaliser que leur société est en train d'imploser dans deux camps. D'ailleurs, j'ai lu que un des titres proposés du film, ça devait être Red State versus Blue State. Ça veut quand même dire qu'on réalise certaines choses et on a envie d'adresser ce problème, quoi. Tu vois, c'est ça le... Bon, du coup, est-ce que ça vous dit qu'on donne des notes et on se met en mode full spoiler sur les scènes du film?
Ouais. Moi, je dirais que je mets 4 miams. Ouais. Parce que vraiment... Bah, non seulement je le recommande, mais en plus, voilà, bon moment. Et puis... c'est un film un peu rare, voilà. C'est des films qui commencent à... Et j'espère qu'il y en aura d'autres qui vont suivre cette même lignée. Mais voilà, comme ça, regardez-le, comme ça, vous pourrez dire « Ouais, j'ai vu les premiers de ce genre de film.
» Moi, je vais mettre 4 miams aussi. Parce que, ouais, j'ai passé un très bon moment et que j'ai été surprise vraiment à plein de moments dans le film. Je m'attendais pas à ce qui se passait, à ce que je voyais. Et du coup, c'est très agréable, je trouve.
Pareil, 4 pour le divertissement et la surprise et le bon moment de cinéma, quoi, à recommander.
Les scènes préférées.
Ouais, les bonnes scènes préférées. Alors moi, il y a une scène que j'adore, la scène dans la station-service au début. Ouais. Et du coup, c'est assez cool parce que... Il y a ce moment où ils rentrent dans la station-service et tu n'as pas envie d'y croire, en fait. Et... On arrive quand même, parce que les acteurs sont carrément bons, parce qu'il y a une mise en abîme cool de personnages qui jouent des personnages en permanence. Mmh. Et j'ai bien aimé cette scène, et notamment quand l'actrice Betty Gilpin, l'héroïne blonde du film, rentre. Et je trouve que quand elle rentre dans la station-service, il y a un truc d'acting qui se passe qui est assez ouf, c'est que de suite, cette meuf apparaît comme une anomalie, en fait. Tu vois, c'est-à-dire que dans son regard... Dans sa façon qu'elle a d'analyser la situation, tu sais que ça va être l'élément qui fout le bordel, en fait. Et j'ai adoré cette scène.
Ouais. Et puis surtout, cette scène aussi, elle est subtile dans la révélation de pourquoi les méchants, donc les millionnaires derrière le comptoir qui jouent soi-disant des vendeurs de tabac normaux, je savais que la révélation n'allait pas être justement sur... J'allais dire une action, quelque chose comme ça, mais plutôt parce qu'ils ne savent pas comment c'est la vraie vie. Mmh. Tu vois, les millionnaires, ils ne savent pas qu'un paquet de clopes, normalement, ça coûte $6 en Arkansas, tu vois. Alors qu'elle, elle vit dans la rue, tu vois. Elle sait ce que c'est. Et c'est intéressant. C'est qu'au final, ta déconnexion avec la réalité va te coûter ta vie en tant que millionnaire. Et ça, c'est cool, je trouve.
Qu'est-ce que vous avez pensé de la scène que moi, enfin perso, dans le film, je me dis, j'espère qu'elle va arriver. C'est la fameuse scène de la wine and cheese party, des gars qui font le casting pour choisir les gens dans leur salon, en fait. avec Hilary Swank qui fait son sport derrière un peu. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette scène?
Bah, c'est pas mal parce que t'as toute la révélation de comment ça s'est créé au final, toute cette connerie. Et t'en vois plus, c'est histoire d'en remettre une couche de douchebaggerie sur toutes ces personnages, mais moi c'est du fun en plus.
Ouais, c'est ça, moi j'ai trouvé que c'était une scène très agréable, très fun, très... Je pensais qu'on allait apprendre plus... En fait, je pensais qu'elle allait durer plus longtemps, cette scène.
Oui.
Tu vois, qu'ils allaient aller peut-être un peu plus dans pourquoi on a choisi lui, pourquoi on a choisi elle, ou peut-être plus dans la backstory de
Hilary Swank et tout ça,
tu veux dire? Non,
Snowball.
Snowball. Tu vois, en savoir un petit peu plus sur elle. Mais non, je l'ai trouvé très chouette. Et c'est pareil, c'est que là, c'est du 100% ridicule, quoi, pour les
millionnaires.
Pour les millionnaires, c'est que tu vois. Enfin, il passe vraiment.
Avec le gars qui est censé, selon moi, être un peu le Alex Jones, totalement, tu sais, le lanceur d'alerte.
J'ai un podcast de théorie conspirationniste, etc. Et alors, c'est... Ça, c'est drôle aussi. Et d'ailleurs, je l'ai coupé on l'a coupé tout à l'heure quand j'ai lu le synopsis. Mais dans le synopsis halluciné, ils disent qu'ils se réunissent pour la première fois. C'est ultra du spoil parce que ça, justement, le reveal de la fin au final, c'est le fait de se dire que, au contraire, c'était une blague à la base dans un texto entre millionnaires. Et comme il y a eu des conséquences et que les gens se sont fait virer pour avoir fait mention d'une, de cette blague comme quoi ils tuaient des rednecks tous les ans dans un manoir, qui les ont poussés à créer vraiment ce manoir et à tuer des gens tous les ans. Et c'est complètement débile de le dire au,
oui, dans un synopsis. Quoi, ouais, je suis d'accord.
Je l'ai trouvé très bien d'ailleurs, cette scène d'intro avec le close-up sur le téléphone, avec la discussion ouais. en groupe, tu sais, où il y a un décalage assez sidéral entre la violence du message et puis la cuisine Ikea, un peu, tu sais, très lissée, j'ai trouvé ça pas mal. Et pour revenir au casting, j'ai beaucoup aimé en fait, il y a un coup de foudre, je crois que Hilary Swank, en fait, quand elle voit Betty Gilpin, il y a un coup de foudre, tu sais, c'est un oui. peu genre, elle trouve c'est son archnémésis, c'est l'ennemi à sa hauteur, tu sais, c'est un peu le Joker au Batman, quoi, elles ont besoin de cet équilibre. Okay. Ouais. Et c'est vrai que du coup, pour le coup, là où la scène, parce qu'il y a l'affrontement final, tu sais, où c'est une blague assez drôle d'ailleurs, que dit, c'est pas un manoir, c'est juste une maison un peu cool, quoi.
Oui, c'est genre que j'ai loué et que j'ai redécoré.
C'est dommage qu'il y a clairement, moi, quand je vois cette scène, je pense clairement à Kill Bill, tu vois, à Kill Bill, où, alors là, on voit clairement la différence de niveau, où dans Kill Bill, t'as de la baston, mais c'est tellement bien mis en scène que c'est délicieux, et là... Peut-être qu'on aurait aimé que ça se fasse que en joute verbale oui. et que oui. d'aller loin dans la joute verbale. Ouais. Tu oui. vois, d'avoir le clash rouge bleu.
Effectivement,
quoi.
Pour rester dans le, à la limite, restons dans le Tarantino, mais qu'avec des dialogues. Et tu gardes que la fin du combat. Parce que la fin du combat, elle est symbolique. C'est le côté, en fait, tu sais, j'utilise la lame qui est oui. sur moi pour aussi te tuer. Tu vois, tu te souviens? Comment elle l'a buté au final, ouais, Hilary Swank. Donc, à la limite, tu pouvais garder que ça, mais en vrai, tu vois, que ça se balance des ustensiles de cuisine pendant 20 minutes, j'en ai rien à branler, quoi. C'est-à-dire, arrive à la fin, quoi.
Et d'ailleurs, physiquement, je trouve qu'au niveau du choix, du. En fait, est-ce que... moi, je trouve que Hilary Swank, dans son style, dans son allure, dans sa coupe, son espèce de coupe avec balayage. Enfin, c'est vraiment la coupe de la députée démocrate, quoi. Mmh. Franchement, c'est elle. Elle habite ça complètement. Et vous avez vu, tu sais, la scène, c'est marrant ce qui se passe, parce que la scène où il y a le reveal de Hilary Swank, quoi, elle est genre avec des associés ou je sais pas quoi, qui lui disent oui, on a un gros problème avec ton texto. Ouais. Et tu sais, il y a un travelling de caméra, mmh. et pendant une fraction de seconde, il y a une ressemblance physique un peu bizarre avec... J'ai trouvé, vous n'avez pas trouvé qu'elle ressemblait un peu à la blonde? Il y avait un truc de visage un peu. Et je me suis dit, ah, ils vont nous faire la cerise qu'en fait, c'est elle qui tue des gens.
Enfin, j'ai pas vu ça, mais c'est vrai que avant ce travelling, en tout cas, on n'avait jamais vu le visage de Hilary Swank. On la voyait toujours de dos. J'ai bien aimé cette scène parce que ça envoie un peu un scud à toute la cancel culture qu'il y a aussi, justement, à Hollywood. Tu vois, le côté de, bah ouais, j'ai envoyé des textos à mes amis, quoi. Enfin, vous avez. Voilà, le côté de est-ce qu'on peut en tirer des conclusions sur mon travail de manière générale, etc. Mais bon.
Non, mais c'est aussi le truc de dire il suffit qu'on croie que t'aies fait quelque chose pour que tu sois condamné.
De la même manière que si tu l'avais vraiment fait.
De la même manière que si tu l'avais fait. Plus que de la cancel culture, c'est vraiment genre.
Oui, c'est.
Comme il y a des gens qui existent et qui croient que t'as fait ça, bah, c'est. Qui vont pas partir,
c'est.
Il y a ça
aussi. Mais c'est-à-dire que oui, c'est. Bah, et du coup, on comprend le. Bah, si. Si je dois faire le time, autant faire le crime, quoi.
Est-ce que vous croyez que statistiquement, il y a plus de brunes chez les démocrates et plus de blondes chez les républicains? Est-ce que vous croyez que c'est accurate comme statistique ou pas?
Je sais pas.
Ce cliché, la blonde républicaine, la brune démocrate,
bah, est-ce que c'est pas... Ça l'est dans les présentatrices de Fox, News?
Ouais bah, c'est ça aussi. C'est qu'en fait, comme tu crées une narration que les blondes, elles sont plutôt du sudiste, etc., tu vas créer aussi dans la culture des meufs qui vont plus vouloir se teindre en blonde si elles sont républicaines et moins... garder leur blondeur si elles sont
démocrates. Après, si on veut faire une analyse à deux balles, on peut aussi dire que pour être blond, il faut être moins mélangé génétiquement.
Ouais, c'est vrai. Et, non, mais la consanguinité...
voilà. Tu vois, donc, il y a plus de... Les blonds, bah, il y a moins de mélange avec des gens autres que de leur ethnie ou de leur origine, de tout ce que tu veux. Donc, peut-être qu'ils sont plus conservateurs, les blonds. que les autres.
C'est marrant parce que du coup, il faut le dire quand même, Betty Gilpin, son personnage, il s'appelle quand même Crystal.
Oui.
Enfin, je suis désolé, mais il y a pas plus prénom de stripteaseuse que Crystal. C'est quand même pas anodin. C'est Chrissy for y'all, tu sais, son pseudo Twitter. Et j'ai une pensée à la fin. Est-ce que vous savez, et c'est là, ça me confirme un petit peu ce côté, cette anomalie, en fait, c'est que elle ressemble quand même vachement à quelqu'un. Moi, je trouve qu'elle ressemble quand même vachement à Ivanka Trump, tu vois, physiquement. Et c'est vrai, j'ai regardé des photos, il y a une ressemblance assez folle, et je trouve que, tu sais, quand on te fait croire qu'en fait, elle sort, il y a cette espèce de sortie avec panache où elle est en mode robe de cocktail, où elle va à la garden party avec son golden, ben, je crois que c'est ça, en fait, le message aussi, c'est peut-être Ivanka Trump aussi. C'est pas juste cette self-made woman qui sort d'un père crackhead. Y a ça aussi, c'est le danger, c'est ça. C'est que le propos du film va un peu dans ce sens de le danger de ce genre de personne-là aussi, tu vois.
Après, moi, dans les trucs qui me dérangent un petit peu dans les propos du film, c'est que pour nous faire accepter le personnage de Betty Gilpin, ils la font... que, en fait, c'est pas elle, tu vois. Ils maintiennent le doute sur l'erreur de personne ou pas, pour te faire dire, ah oui, mais quand même, peut-être qu'elle est gentille, peut-être qu'elle, elle est pas facho, peut-être que, tu vois, peut-être que c'est une injustice. Il y a ça, et il y a aussi le truc qui me dérange un petit peu, c'est justement le fait qu'elle ait lu Orwell. En fait, il y a, pour le coup, ça, je trouve ça un peu classiste,
ouais,
de nous la rendre, de lui donner un peu plus de valeur à nos yeux, parce qu'elle a lu Orwell. On ne pourrait pas dire, non, elle a une culture populaire qui est autre, elle a une culture sudiste qui est autre. On est obligé de dire qu'elle a une culture qui est reconnue par les dominants pour reconnaître que ça a de la valeur.
Ça aurait pu être beaucoup plus subtil si, alors admettons, on garde le truc de Snowball et tout, mais à aucun moment dans le film, on prend la personne dans la main, et à aucun moment on ne mentionne ni George Orwell ni Animal Farm, en fait.
Ouais.
Ça aurait pu au moins sauver ce truc un petit peu. C'est vrai que t'as raison, c'est un peu malheureux, quoi, ce truc de dire « Ah, t'as lu ce livre qui est reconnu, nanana. » Ouais. Donc oui, effectivement, même si déjà... le rapport à Animal Farm, il est pas mal, mais ça...
Sans plus,
c'est vraiment ce truc de « Ah, j'ai dit un livre connu, donc je suis
learning », tu vois. Après, est-ce que c'est pas aussi pour dire... Ben, en fait, c'est la seule représentante de peut-être la plupart des Américains qui ne sont ni des millionnaires... libéraux, ni des rednecks, en fait.
Oui, mais est-ce qu'ils ont lu Orwell pour autant, tu vois ?
En fait, c'est ça. Mais pour moi, avoir lu Orwell chez, en tout cas, Betty Gilpin, c'est un peu de culture normale que un peu tout le monde peut avoir. Tu vois ce que je veux dire ?
Oui, d'ailleurs, parce qu'en plus, il y a une vraie... tu sais, au Texas, enfin à Dallas, c'est une Silicon Valley 2. Il y a typiquement des meufs comme elle, avec l'accent du Sud, qui sont dans des boîtes de tech, en fait.
Oui,
il y a aussi... Donc, il y a aussi ce truc-là à revoir, quoi.
Ouais, mais il y a un adage aux États-Unis, c'est 100% des Américains croient que 50% des Américains sont fous. Et tu vois, c'est ça, en fait. C'est chacun a un camp et tout le monde croit que les autres sont totalement tarés. Alors qu'en fait, là, on essaie de te dire, ben, en fait, ouais, mais il y a aussi un peu des gens normaux qui ont lu Orwell, mais qui sont allés se battre en Afghanistan et quand ils te demandent si toi t'as déjà goûté du caviar et qu'il y en a, bah ils partagent le caviar avec toi, en fait. Et qu'il y a peut-être plus de gens comme ça que des autres gens, quoi. Mais voilà.
Après, moi, pour revenir aux scènes que j'ai beaucoup aimées, c'est deux scènes de monologue de l'héroïne principale. C'est de manière assez quelconque, quand elle raconte la fable du lièvre et de la tortue. C'est quand elle est dans la voiture, qu'elle vient de rouler sur le matelas.
Ah oui, elle est géniale, cette
avec
histoire.
Avec Don.
Ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et quand elle parle avec le consultant militaire,
ouais,
où c'est là où tu te dis, est-ce qu'elle est brillante ? Est-ce qu'elle est complètement barjot ? Et ces espèces d'ellipses qu'elle fait où elle finit pas une phrase.
Ouais.
Et qu'elle a un peu le regard un peu fou, ouais, un peu dans le vide, c'est génial. J'ai vraiment, J'ai vraiment adoré ces deux scènes-là.
Non, mais ça, c'est... Ouais, non, mais c'est deux scènes géniales aussi. Enfin, l'histoire... Moi, j'aime bien, en général, tu sais... ça aussi, pour le coup, ça a un petit côté Tarantino. Tu sais, on va prendre un petit moment dans notre film pour qu'un personnage raconte une petite histoire. Le truc du lièvre et de la tortue et du fait que, en fait, le lièvre... En gros, si tu tues pas le lièvre, il va tout te prendre, tu vois. Et après, la discussion avec le consultant où tu te rends compte que les gens... se paye des consultants absolument incompétents.
Ouais.
C'est génial. Ouais. Tu sais, quand elle te dit, non, mais moi, j'ai fait l'Afghanistan, et qu'après, le gars, il lui dit, moi, j'étais National Guard, donc en gros, un réserviste, quoi, qui a jamais connu de guerre conflit, ou de ouais. conflit, tu fais, ah, mais d'accord, c'est pour ça qu'elle t'a tâtonné la gueule en 4 secondes, même si t'as la gueule d'un colonel, tu sais, ou voilà.
Et c'est trop bien d'ailleurs ce dialogue où tu sais il dit qu'il a participé à Tears of the Sun.
Oui, oui, le film,
ils sont là en mode des blagues genre pourquoi le soleil devrait pleurer. C'est typiquement la blague de Garden Party, tu sais.
Et aussi pour ce consultant, le fait de dire tu sais il n'a même pas été payé, c'est parce qu'il devait quelque chose, tu vois. Il y a encore ce truc des relations de pouvoir même ouais. dans leur camp d'esclavagisme, quoi, encore. Et donc, tu fais, ça suffit, quoi.
Qu'avez-vous pensé de toute la partie qui se passe où tu comprends qu'on est en Hongrie, quoi? Avec les militaires hongrois et tout.
Moi, j'adore, parce que pour moi, c'était le petit clin d'œil à Hostel. C'est-à-dire, tu sais, le côté encore, pays d'ex-URSS, perestroïka, on peut faire ce qu'on veut, en fait.
Ouais.
C'est-à-dire, avec deux, trois bombiers à glisser à deux, trois bonnes personnes, je te donne 25 hectares et je pose pas de questions.
Et il y a une scène qui est extrêmement bien jouée, c'est la scène de l'interrogatoire avec le gars qui mange des œufs au vinaigre, là, tu sais, où il joue trop bien le gars qui doit être dans un rôle, mais qui n'est pas convaincu, il s'en bat les couilles, en fait, tu vois, parce qu'il sait très bien qu'il y a un gars qui va venir les chercher, et il y a ce truc que j'aime beaucoup aussi, c'est le pseudo Alex Jones qui dit « Hey, I'm American », tu sais, genre, je suis important, dans le monde.
Je suis pas comme les migrants à côté.
Les gars, genre, mais ils s'en battent les couilles, quoi. Mais c'est un truc de fou. C'est genre, oui, attends, on recule. Ils discutent, ils sont certainement en train de parler de leur journée. Et l'autre, il dit, vas-y, attends, on appelle l'ambassade ou je sais pas quoi. Et c'est vrai que... Et même le moment un peu comique qu'il y a avec le gars qui est censé être un réfugié, qui en fait lui parle en anglais de nulle part, tu sais. En mode, t'es pas assez convaincant et tout, c'était vraiment cool.
Ouais, bon film. Du coup, à recommander.
Ouais. Du coup, j'étais en train d'imaginer un petit. Est-ce qu'on verrait pas? Moi, j'imaginais un petit remake en France. Tu sais, alors moi, du coup, pour Hilary Swank, je verrais bien une petite Marlène Schiappa. Tu sais, une Marlène Schiappa un peu énervée et tu sais qui va chercher des beaufs un peu. Tu vois, qu'il est. Et puis, du coup, son arch-nemesis, ce serait une meuf, genre je sais pas, qui s'appelle Cynthia ou Vanessa. Et en fait, ce serait peut-être Marion Maréchal Le Pen. Tu vois, genre qui se révèle. Ça.
Mais je sais pas si ce serait possible. Ouais. Ce serait transposable à la France parce que. J'ai l'impression que la réussite aux États-Unis se fait de manière plus violente. Tu vois, les gens qui dominent aux États-Unis, c'est des gens qui ont dû activement écraser d'autres gens, alors qu'en France, les gens qui dominent, on leur a donné. Tu vois, il y a plus le truc de...
L'héritage.
Ouais, il y a plus... Bah, même si, aux États-Unis aussi, tous ces gens-là ont pour beaucoup hérité, mais... J'ai l'impression que ça se fait moins dans la... Enfin, c'est plus feutré, c'est moins...
Oui, et puis il y a aussi le truc qu'il faut remettre sur la table à chaque fois, que le concept de dans les pouvoirs dominants aux États-Unis de gauche n'existe pas, parce que les démocrates, au mieux, c'est genre des centristes, quoi. Oui. Et puis, quelle que soit ta couleur, t'es quand même obligé d'avoir des milliards de dollars pour accéder au pouvoir, quoi. Et ça, c'est clairement
visible. Et ben, pour le coup, j'ai la troisième raison pour laquelle c'est pas transposable, c'est qu'en vrai... La culture woke n'existe pas en France. Elle n'a pas du tout le même pouvoir qu'aux États-Unis. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas se faire cancel. La preuve en est ce qui s'est passé dernièrement sur BFM TV. Un journaliste pendant un enterrement de masse en Chine qui dit ils enterrent des Pokémon. Il dit le truc ultra raciste. Parce qu'il y a eu un buzz sur Twitter, BFM TV a bien accepté de le suspendre d'antenne pendant une semaine. Ça, tu fais ça aux États-Unis, c'est fini pour ta life. En tout cas, médiatique. Bah après, tu vas te créer effectivement un podcast tout seul à l'Alex Jones, tu vois. Mais le fait même qu'il n'y ait pas de pouvoir libérale à l'américaine en France, parce que comme tu dis, en fait, il n'y a pas en France, déjà les millionnaires, on ne les connaît pas. Tu vois, en France, il n'y a pas de nom. Si tu connais, mais c'est ça le truc, c'est qu'en fait, tu connais presque, tu vois, si tu dis Serge Dassault, c'est même pas une personne, c'est un bloc inamovible qui fait presque partie de la France.
Il y a les nouveaux, il y a Niel, il y a, tu vois, tout ce.
Ouais, mais en fait, en vrai, tu sais pas ce qu'ils pensent culturellement ou socialement. Alors qu'aux États-Unis, tu sais que, tu sais qu'il y a certains millionnaires qui pensent comme ça, et tu sais que bah, les autres millionnaires, c'est des républicains, quoi.
Oui, après, tu vois, Bolloré, Dassault, on sait ce qu'ils pensent, quoi.
Mais c'est-à-dire que, ouais, il n'y en a pas de l'autre côté, quoi.
Oui, c'est ça.
Il n'y en a pas, il n'y a pas des...
Ah si, je te dis, Niel, comment il s'appelle, l'autre Peg, ah mince... Ceux qui ont
mais est-ce que tu vois, est-ce qu'ils ont des... Mais c'est ça le problème aussi, il n'y a pas de super PAC pour les démocrates, tu vois.
Oui.
Aux États-Unis, il y a, tu vois, même des comiques qui pèsent des millions de dollars, genre Bill Maher qui avait fait à l'époque un chèque $1 million pour Obama, etc. Il y a ces gens-là aux États-Unis. En France, il n'y a personne qui est millionnaire et qui dit « il faut plus de répartition des richesses
oui. »,
tu vois. Mais voilà.
Non, c'est vrai, c'est vrai.
Et puis en plus aussi, pour finir la comparaison, je pense que pour l'instant, en France, on est moins clivé. Ça va venir, hein, on va être de plus en plus clivé, je pense. Mais le clivage, il est moins... Le clivage, il existe entre Parisiens et les autres,
ah ben, à mort.
Tu vois.
Oui, oui.
Mais c'est pas beaucoup. C'est pas un clivage démocrate-républicain, c'est pas un clivage gauche-droite, c'est vraiment un clivage qui est.
Et très... bah, du coup, est-ce que ce serait pas mal, je sais pas, quelqu'un qui mettrait dans son champ des hipsters parisiens, du coup. Tu vois, pour changer la donne. Ce serait plutôt.
Non, mais c'est ce qui va se passer. Moi, je mets déjà des billets sur le fait que c'est pour ça que je parlais de Mario Maréchal Le Pen, parce que du coup, ça va devenir. C'est-à-dire que le fait d'être écolo, ça va devenir une idée assignée à un camp, quoi. Tu
oui,
vois,
totalement. Genre,
le camp d'en face va dire ah, mais non, il faut du diesel et tout ça, quoi, tu vois. Et c'est pour ça que là où je te rejoins, Fela, je pense qu'on y va. Et pourquoi pas, peut-être qu'il y a des gens qui vont essayer la rhétorique Trump pour arriver à leur fin, et clairement, on est en train d'assister à ça aussi. Donc peut-être que justement, on va commencer à donner des millions aux hipsters bobos parisiens, et ça va rééquilibrer le game.
Est-ce qu'il nous sauve un peu, c'est... Moi, j'attends les millions, perso, j'aimerais bien...
Est-ce qu'il nous sauve, c'est le multipartisme aussi, parce qu'aux États-Unis, ça n'existe pas.
Oui.
Ouais. Donc nous, au moins... Même si les mécaniques sont les similaires et qu'effectivement on peut toujours dire c'est droite et gauche, au moins il y a l'illusion de dire ouais, moi je pense comme toi, mais pas vraiment comme
ça
toi.
Ça apporte de la nuance
donc,
en fait.
Ouais, donc j'ai le
droit
d'avoir.
Est-ce que vous croyez qu'il y a des gens qui, là maintenant, voyant ce qui se passe, qui regrettent de ne pas avoir voté pour Bernie Sanders et sa sécurité sociale universelle?
Ah ouais, mais là je pense qu'il y a des gens, quand ils se retrouvent à payer 73 000 $ pour avoir chopé la grippe, là j'espère qu'ils se réveillent quoi. Mais par contre, s'ils revotent pour Trump, je pense, ça, les Américains, tu peux plus les sauver, c'est fini.
Ouais, c'est fini.
Ouais.
Enfin, déjà, on disait ça pour la deuxième fois où Bush avait été élu. Enfin, moi, je me souviens, j'ai dit ça. La deuxième fois où Bush a été élu, je me suis dit, s'ils revotent pour Bush, tu peux plus les sauver. Et ensuite, les gars, ils ont quand même voté pour Trump.
Ouais.
Et là, je me dis, s'ils revotent pour Trump, c'est, enfin, je comprends même pas, quoi. Je comprends pas. Mais c'est la preuve aussi de ça, d'un décalage médiatique avec ce qui se passe dans la, réalité, les vrais gens et les camps qu'on veut bien te vendre. Parce qu'au final, il y a une telle déconnexion qu'au final, ils savent même pas pour qui les gens veulent voter. Parce que il y a un camp qui dit faut vraiment être trop con pour voter pour Trump, et il y a l'autre camp qui dit faut vraiment être trop con pour voter pour Sanders. Au final, personne n'est in touch avec...
Bon, du coup, est-ce que Chrissy Foyle, c'était vraiment Chrissy Foyle ou pas?
C'est Justice Foyle.
Justice Foyle, pardon. Justice Foyle.
Ben non, je pense pas. Parce
ben
que...
non, vu qu'elle était, elle avait une formation de l'armée, et ça, il le savait pas.
Ouais.
Tu vois, dans son truc.
Ouais, sinon, il l'aurait su dès le début.
Et hein. Deuxième question, que je trouve, moi, c'est une des meilleures blagues du film, c'est Hilary Swank qui dit: mais non, j'ai jamais fait ça, je le fais juste parce que vous dites que je le fais.
C'est trop bien, ça.
C'était rigolo.
C'est la meilleure blague. Ouais. Et tu sais, du coup, Crystal, elle joue vachement bien la meuf qui est en proie au doute. Tu sais, elle dit: ah ouais, en fait, c'est possible. Qu'elle ait tellement été vexée, tu sais, dans son âme, ouais, qu'elle organise une chasse, qu'elle en fasse une.
Mais en même temps, c'est qu'elle est tellement... Parce que cette scène et ce quiproquo, là, ça dure tellement longtemps que je trouve ça aussi drôle de la part de Chrissy de dire... Ouais, mais en fait, tu le fais quand même. Oui. C'est ta première année, peut-être. Mais ça veut dire que t'étais capable de le faire, en fait. Donc, si t'étais capable de le faire, c'est que tu le fais, quoi. Et que tu l'as toujours fait, quelque part, dans ta tête.
Et est-ce que Don, avec sa casquette de la NASA, c'était un gentil ou un méchant? On saura jamais ça non plus.
Définis gentil et méchant.
Ça, c'est la vraie question, par contre. Don, est-ce que Don... Ça, c'est la vraie question. Mais
non,
je pense pas, parce que je pense que Hilary Swank lui aurait dit... Ben non, il bossait pas pour moi. Rien que pour faire chier la meuf.
Ouais, peut-être.
Je pense qu'elle lui aurait dit.
Non, puis je pense que Hilary Swank, on nous l'a fait passer pour un peu pour le genius mastermind. Et du coup, ce serait vraiment une erreur de débutant d'avoir parlé à Don sur la radio alors qu'elle savait qu'il y avait Crystal dans le truc. Donc moi, je pense que c'était un redneck comme les autres.
Ah ouais?
Ouais.
Je sais pas. Voilà, ça, c'est la vraie question en suspens. Envoyez-nous des messages. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que Don était dans le coup ou pas? Alors, avant de passer peut-être au film en vrac, nouvelle recommandation cette fois-ci de Avril que vous avez pu entendre dans plusieurs épisodes ces derniers temps. Donc, trois recommandations aussi pour les films de confinement.
Alors moi, je recommande La Chute parce que même si c'est Hitler, ça reste quelqu'un de confiné. Et je pense que c'est important de faire preuve d'empathie envers les gens confinés en ce moment. Et puis surtout, je pense qu'on peut faire une parodie très rigolote du moment où il s'énerve en mettant à la place d'Hitler Macron, qui ne comprend pas pourquoi les Parisiens continuent de faire des orgies nues alors qu'on doit rester chez nous. C'est mon choix numéro 1, La Chute. Excellent film.
À noter que cette recommandation d'Avril a été envoyée le 16 mars. Donc, c'était avant que la vidéo là, qui est connue et qui circule sur Twitter, où justement, il y a cette scène qui est mise en parodie, existe. Donc, voilà. Bravo, Avril, t'as eu l'idée avant. Mais tu l'as pas fait.
Mon second choix, c'est L'Exorciste de Monsieur Friedkin. Parce que c'est le seul film que je n'ai pas réussi à finir d'un coup. J'ai dû arrêter parce que j'avais trop peur. Et je pense que quand on a peur de s'emmerder, on peut remplacer l'ennui par une émotion particulière. Et je pense que la terreur peut remplir ce rôle. Donc voilà, si vous n'avez pas peur de tenir 45 jours, regardez L'Exorciste. Et comme ça, vous pourrez passer 45 jours à vraiment ressentir des vraies émotions, aussi négatives soient-elles. Et enfin, ma dernière recommandation, c'est bien évidemment Cusco. Cusco qui est le Disney le plus drôle et le plus sous-coté de l'histoire des Disney. Je pense que dans ces temps difficiles, l'imbécilité de Kronk, la médiocrité d'Isma, ainsi que celle de Cusco, la gentillesse de Pacha, feront du bien à tout le monde. Cusco président, Cusco 2022.
Et ben pour finir sur ça, justement, ça tombe bien vu que... On est 5 avril, ça veut dire que dans 2 jours, il y a Disney Plus qui sera activé en France. Donc, vous allez pouvoir retrouver tous les Disney, y compris l'Empereur Cusco. Donc voilà, n'hésitez pas. Quelque chose à rebondir sur ces recommandations, L'Exorciste et La Chute?
Non.
Non.
Difficile, hein. Je vais me faire la liste de Schindler d'abord pour bien me chauffer. La Chute.
C'est vrai que là, c'est autre chose.
Non, c'est vrai que c'est ce qu'on disait l'autre jour, c'est que là, pour le coup, je suis tellement pas dans le camp qu'ils veulent s'auto-flageller à base de misère humaine que je vais pas regarder La Chute.
Ouais, c'est clair. Et au contraire, justement, ça va faire partie des films en vrac. Et là, on va peut-être commencer les films en vrac par le film qu'on a vu. Ils se trouvent tous récemment et qui était plutôt fun. The Gentleman de Guy Ritchie qui est sorti quand en France,
qui est sorti le 5 février.
il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc alors vas-y, tu vas commencer, Jean-Yves, toi qui es toujours un fan de Guy Ritchie.
Ah oui, moi je suis un fan de la première heure, j'ai absolument adoré ce film, ça m'a rappelé les petits frissons de Arnaque, Crime Botanique et Snatch, et ça confirme bien que c'est une chaussure qui lui va trop bien en fait. Il y a un vrai plaisir dans ce film, tu vois, c'est un peu, ça m'a rappelé une interview de Brad Pitt quand il sortait de Snatch, et en fait, Brad Pitt, il avait tellement aimé Arna Crime et Botanique qu'il avait contacté Guy Ritchie en mode gros américain qui possède les gens, en mode viens chez moi pour faire mon prochain film. Guy Ritchie lui avait dit faux, non, je fais ce que je veux. Et donc,
c'est Brad Pitt qui est parti en Angleterre.
Brad Pitt avait trouvé le moyen de s'incruster dans Snatch, un petit film à 3 millions d'euros, ce qui est vraiment rien, et avait pris un vrai plaisir. Et là, j'ai l'impression que casting 8000 étoiles avec Matthew McConaughey, Colin Farrell, Hugh Grant,
Charlie voilà.
Et on a vraiment l'impression que c'est au-delà du film qui est très divertissant, scénario fun, que tous ces acteurs, ces actrices prennent un vrai plaisir, tu vois, à être là-dedans et à s'amuser, et ça contribue vraiment au plaisir du film. Très, très divertissant, c'est le schéma classique du film de gangster avec des fils narratifs qui se recoupent. Truc très original aussi, c'est un truc qui, à mon avis, marche bien dans un roman, et là, c'est assez habilement fait. David Fincher arrive bien à faire ça, c'est le truc de Hugh Grant, c'est-à-dire le fil narratif de Hugh Grant, journaliste, qui essaie d'imaginer l'histoire. Et tout au long du film, ça te tient en haleine sur qu'est-ce qui aurait pu se passer. Et donc, tu as un va-et-vient permanent entre des scènes de gangsters et Hugh Grant qui essaie de convaincre Charlie Hoffman qu'il a raison. Donc vraiment, j'ai passé un très bon moment dans ce film et je n'ai pas regardé mon téléphone une seule fois pendant les 2 heures, je crois. J'ai même fait pause au milieu pour m'en garder 1 heure pour plus tard. Donc, je me suis bien régalé. Est-ce que vous avez aimé ce film ?
Alors, moi, je n'ai pas trop aimé. Si j'avais été seule, j'aurais arrêté de le regarder au bout de 10 minutes, je pense. J'ai trouvé ça, surtout le début. En fait, je trouve qu'il met du temps à démarrer. Moi, je ne suis pas rentrée dans le film avant un petit moment. Je trouve que c'est forcé un peu, en fait. J'ai l'impression qu'il essaye de faire... C'est Guy Ritchie qui essaye de faire du Guy Ritchie et qui est un peu caricatural.
Non, c'est ouf, c'est exactement... ce que je pense sur certaines scènes.
qui, du coup, c'est un peu caricatural. J'ai l'impression qu'il se veut plus intelligent qu'il n'est. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a des fois où il te dit « Oui, ça va être un twist, mais sauf que c'est pas un twist de fou. » Enfin, c'est pas... Moi, je l'ai trouvé beaucoup moins réussi que d'autres, même que Rock'n'Rolla. Sans aller dans Snatch et Arna Crime et Botanique, j'avais préféré Rock'n'Rolla, alors que c'est pas non plus fifou, quoi. Donc non, moi, je me suis... Après, une fois que t'es dans le film, j'ai pas passé un mauvais moment. J'ai passé un bon moment, c'est chouette. La fin rattrape un petit peu le début, mais j'ai pas trouvé ça fifou, quoi.
Moi, j'en avais parlé dans le... Alors moi, déjà, moi, j'ai passé plutôt un bon moment. Moi, j'ai bien aimé le film. Il y a un gros, gros pan de nostalgie. Là, tu vois, en ce moment, Jean-Yves, on est en train de jouer à Counter-Strike pendant ce confinement assez régulièrement. Et en fait, c'est pareil de revoir ce film. C'était la nostalgie, ouais, de quand on était chez toi et qu'on rematait Snatch et Arna Crime et Botanique, etc. J'en ai parlé dans l'épisode justement où de Excalibur, la légende de l'épée, je sais pas quoi, enfin bon, un des derniers films de Guy Ritchie, où il y avait une scène dans ce film-là avec Charlie Hunnam aussi, où Guy Ritchie faisait du Guy Ritchie d'antan, mais ça se voyait, et c'est la scène où, tu sais, c'est en cut ultra rapide de personnes qui vont parler à une autre personne pour avoir des informations d'une autre personne, etc. Mmh. etc. Tu sais, tu rentres un peu dans le vieux Londres, j'imagine, j'en sais rien, je sais plus dans quelle ville ils étaient, moyenâgeuse, et tu te dis, ah tiens, c'est marrant d'avoir du Guy Ritchie dans un film épique, tu sais, avec de la magie, etc. Mais ça se voyait que c'était forcé et que c'était presque un clin d'œil à lui-même.
Oui.
Et je trouve que dans ce film-là, il y a des moments où que je trouve un peu, un poil poussif comme ça, où en gros je vois que c'est fake et que j'ai l'impression qu'il s'est tellement éloigné de ses corps films, tu vois, de ses films centraux par lequel on le connaît, qu'il sait plus trop comment le faire de manière ultra sincère. C'est-à-dire que moi, quand je vois un Snatch, quand je vois toutes ces arcs narratifs qui s'entrecroisent, etc., je sais pas pourquoi, mais c'est beaucoup plus sincère. Et c'est beaucoup plus... je l'absorbe beaucoup plus facilement. Alors que là, il y a certains dialogues, il y a certaines choses où je me dis... Ok, t'as envie de faire comme du Guy Ritchie, alors que c'est con parce que c'est lui. mais j'ai l'impression que lui, là, en ce moment, il est sur un autre délire beaucoup plus. D'ailleurs, on en avait parlé parce qu'on l'avait écouté dans un épisode de Joe Rogan, tu sais, qui est en général beaucoup plus spirituel. Moi, je trouve que d'ailleurs j'ai beaucoup aimé dans la légende d'Excalibur, qui est dans un petit peu la réalisation de soi ou des choses comme ça. Et là, il essaye de mixer ça et son ancienne façon de faire des films. Et donc, il y a des petits moments où moi, je trouve que c'est pas assez genuine, tu vois, pas assez sincère. Mais encore, c'est des petits moments pour moi. Parce qu'après, tout le reste, c'est quand même... Bah oui, c'est-à-dire que moi, déjà, chaque scène, il y a un acteur que j'adore. Bah, j'adore le film, ouais. Quoi.
Oui.
De base, qui joue super bien.
C'est marrant parce que ce que tu dis c'est complètement vrai. Fela, t'as raison, Guy Ritchie c'est un gars qui est ultra ultra mégalo, il est ultra macho aussi, ouais. Gars qui voilà, c'est un peu old school genre film ritalo-américain des années 80.
Totalement.
Quoi. Et moi il y a quand même un élément moi que j'adore. Donc déjà après c'est un petit peu parti pris sur l'anglais parce que c'est l'accent du East End, l'accent londonien du ghetto qui genre c'est du nectar quoi à écouter. Et il y a les costumes aussi si tu veux. Tu sais, est-ce que t'avais écouté l'épisode de Rogan avec Guy Ritchie?
Oui, et
en fait Rogan quand le truc finit, il regarde Jamie, il dit putain, mais qu'est-ce qu'il est chic, ce Guy Ritchie. Il a pas arrêté de regarder comment il était trop bien sapé, quoi. Tu sais, le petit mouchoir de poche, le truc. Et il y a un costume design dans ce film qui est stratosphérique. Ouais. Ce qui est dit, le message, là, les connotations qu'il y a par rapport au costume sont ouf. C'est-à-dire que au point que Matthew McConaughey est parti avec ses costumes parce qu'il a dit qu'il avait jamais porté des costumes aussi cool. En mode, après, c'est des costumes, c'est pas à la portée de tout le monde, quoi. C'est genre, c'est cachemire, soie, enfin, on sent
oui,
que.
C'est du 11 000 dollars par truc.
C'est,
ouais.
c'est la Rolls du costume. Il y a c'est très subtil, tu vois, parce que par exemple Charlie Hunman qui est son lieutenant, son bras droit, lui il va être dans le chic, mais le chic un peu plus casual, tu vois, il a souvent les petits gilets. Il y a une hiérarchie du costume aussi. Il y a, tu vas voir Colin Farrell, il a le survêt en soie à carreaux, trop chic, tu sais. C'est moi je me suis régalé. Je pense que c'est un film que je pourrais revoir que en regardant tous les détails de costume. T'as un autre truc, c'est le personnage. Alors là, voilà, effectivement, là, on est vraiment dans la tête d'un gars qui est ultra old school macho parce que sa femme, elle est quand même en Louboutin, elle travaille dans un truc de tuning, quoi. Elle fait des voitures, elle restaure des. Enfin voilà, on est quand même dans une idéologie très très mec, quoi, tu vois.
Totalement.
Enfin mec, voilà. Et la même façon, parce que si tu veux, ce qui est intéressant, c'est aussi l'ascension. Il y a un truc qui est revendiqué, c'est l'ascension sociale du gangster aussi, parce que. Par exemple, l'actrice qui joue, que j'ai mis longtemps à remettre, mais qui joue dans Downton Abbey, en fait, c'est un des rôles qui joue la femme qui est magnifique d'ailleurs. Il y a cette façon de posséder les vêtements aussi, tu sais. Bon, déjà, elle a les Louboutins de 15 cm, les tailleurs Stella McCartney ou Ralph Lauren, et il y a aussi une revendication sur le fait d'habiter des vêtements d'une classe sociale ultra élevée, en fait, tu sais, et la façon dont tous ces personnages ont d'être bien là-dedans, ça transmet quelque chose de qui est cool au niveau de leur rang, et tout le truc par rapport aux lords anglais, parce que dans le film, tu sais, sa stratégie, c'est qu'ils payent des lords anglais pour utiliser leurs terres pour faire pousser de l'herbe. Et je sais pas si tu vois, mais à un moment, il y a une scène où il est chez un lord, c'est le lord à qui il apprend que finalement il va devoir arrêter. Et ce gars, le gars qui part, il est genre chic, mais chic de ouf, tu sais, genre le petit pin, la petite cravate et tout. Et il y a une vraie... Bon, Guy Ritchie, oui, et comme beaucoup d'anglais, il était très patriote, mais j'aime bien le message qu'il y a de revendication du chic, du style britannique dans ce film.
Ouais, et pour le coup, avec cette scène et le fait que, comment dirais-je, il utilise l'argent de la drogue pour renflouer les nobles qui perdent le côté... en fait, c'est... bah, nous sommes le futur de l'Angleterre, tu vois, et que ça ouais. passe par nous. Mais Guy Ritchie, il a une théorie très intelligente, intéressante sur le costume, en fait. Tu sais, je sais pas si justement tu te souviens quand on lui posait la question de pourquoi est-ce que tu mets un costume trois pièces avec un mouchoir, etc. Et c'est qu'il dit, en fait, à partir du moment où tu fais l'effort de mettre un costume, va jusqu'au bout. Il n'y a aucun intérêt à porter à la moitié d'un costume. C'est un statement que tu dis à partir du moment où tu mets une veste. Donc, fais-le à 100%. Et j'aime bien cette pensée-là, parce que tu dis, bah, oui, quitte à exprimer, communiquer quelque chose par mes habits, ce que quelque part nous faisons tous, bah, fais-le jusqu'au bout. Et c'est vrai que le costume design de tout ce film, comme tu dis, c'est très bien fait en fonction de toutes les personnes.
Et le costume design va très très loin aussi pour le personnage de Hugh Grant. Tu sais, avec ce petit pull à col roulé, la veste en cuir un peu du journaliste un peu quinquin, un peu pervers, tu sais. Et j'ai lu un article où il y a eu réflexion de ouf avec palette de couleurs sur la teinte du fumage de ses lunettes, quoi. Elle a tu sais, c'est le violet marron un peu du gros dégueulasse un peu, tu sais, qui même en soirée avec ses lunettes de soleil. Donc c'est à ce point, quoi. Et j'ai adoré voir Hugh Grant se démerder aussi bien dans un film qui n'est pas du tout son calibre en temps réel, quoi.
Oui. Mais d'ailleurs, au final, est-ce que c'est pas un peu ça tout ce film, c'est-à-dire que c'est aussi cool que des jolis vêtements? Tu vois ce que je veux dire? Ça va rien apporter de quelque chose de.
C'est ouf. Ça.
Au final, c'est des scénettes que tu pourrais avoir dans une pièce de théâtre, mais où tout est très bien travaillé. Et tu te dis,
c'est okay, ça c'est le superficiel, mais le superficiel superficiel léger, c'est GQ magazine, en fait. Tu sais,
c'est exactement
de la pub,
ça.
Quoi. Il y a un côté esthétique de pub, mais malgré tout, il y a quand même un talent de. Par exemple, au milieu, il y a un clip de rap qui est absolument génial, quoi. C'est-à-dire, tu sais, le clip de rap avec les gars qui ont les GoPro, moi, je le trouve génial. Et il y a aussi dans ce film, malgré tout, alors c'est vrai qu'il se la raconte un peu, c'est clair que voilà, c'est un peu le gars qui veut expliquer à tout le monde comment on fait du cinéma. D'ailleurs, l'esthétique du film rappelle curieusement Kingsman, tu sais, l'affiche, c'est la même que. C'est un peu genre, ah non, je vais vous montrer, en fait, je vais vous montrer ce que c'est que le chic britannique, c'est pas ça, etc. Il y a un peu ce côté genre, je vais vous expliquer moi mieux. Mais malgré tout, tu vois, ce clip de rap, il est quand même 10 fois mieux que tous les meilleurs clips de rap qui ont jamais été faits. C'est-à-dire, le gars, il a quand même le mérite d'arriver, de dire, ok, vas-y, je vais faire un truc. C'est quand même sacrément cool, quoi.
Après, c'est un petit bingo de la masculinité pour plaire à tous les hommes. C'est-à-dire que justement, il y a du costume pour toutes les personnalités, tu vois, que ce soit le survêt de Colin Farrell, ou alors les gens qui ont des bons costumes, ou alors même d'ailleurs les élèves de Colin Farrell qui ont des survêts, alors de moins bonne qualité, mais quand même jolis aussi. Et le bingo, c'est aussi, voilà, on met du jujitsu parce que Guy Ritchie, il fait du jujitsu, et que du coup, les gosses, ils font du MMA, tu vois, et qu'ils savent se battre. Il y a un peu tout, quoi. Il y a un peu tout pour dire qui il est, lui.
Oui. Après, moi, je rebondis sur ce que vous avez dit tous les deux et je voulais en parler. Moi, ce qui m'a saoulée aussi dans ce film, c'est l'absence. Je veux bien qu'il s'appelle The Gentleman. Il n'y a pas de souci. Il y a un seul personnage féminin. Il se démerde. Alors, on essaie de te le faire passer pour quand même une femme un petit peu de pouvoir. Au début, on te fait croire qu'elle a de l'influence sur son mari, on te fait croire qu'elle est intelligente. Donc, on te dit, bon, c'est une femme un peu de pouvoir qui zigouille quand même deux mecs de sang-froid, mais on se débrouille pour la mettre dans une position où elle manque d'un rien d'être violée. Et heureusement, son mari arrive pour la sauver. C'est des trucs, moi, je crois qu'il y a un moment donné où c'est plus OK de pas mettre une seule nana. Tu veux mettre des nanas, mais les dans la salle de sport, par exemple. Il y a aussi des femmes qui font de la boxe, il y a aussi des femmes qui font du jujitsu.
Mais il y a des femmes mécaniciens, il y a des femmes qui réparent des voitures. Elles réparent des voitures en salopette.
Ouais, et en fait, c'est le seul truc de féminité. C'est tout ce qui a trait à la femme de Matthew McConaughey. Et c'est tout.
Mais d'ailleurs, non, mais pour le coup, non, c'est intéressant ce que tu dis, Jean-Yves, parce que justement, je crois que, tu sais, à un moment, parce qu'en fait, elle a un garage pour femmes.
Oui.
C'est-à-dire qu'en gros, ses clientes ne sont que des femmes, oui. Il n'y a que des femmes, et elle le dit, je veux que ce soit un havre de, tu vois, ouais, de paix pour les femmes, et du coup, il y a un... Alors, je sais pas donc, si c'est un statement de sa part de dire, mais en fait, écoutez, moi, je sais pas. Genre, moi, je sais pas. Je sais pas écrire des trucs pour les femmes ou quoi.
Donc, on va toutes les mettre là.
Ça, non, mais ça m'intéresse pas. Et peut-être, genre, enfin, je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Parce que c'est vrai que quand tu réfléchis, genre, Lockstock et Snatch et tout ça, il y a que des mecs. Il y a littéralement, par contre, que des mecs. Il y a même pas une meuf, quoi. Il me semble. Hein. J'ai aucun souvenir qu'il y ait une meuf, en tout cas.
Mais c'est vrai, et Fela, t'as raison, et c'est cette raison qui fait que je n'arrive pas à montrer à ma wife des films de Guy Ritchie, c'est parce que je crois que elle, en tant que femme, elle a en elle ce radar pour dire le message de ce gars est tellement macho que ça ne m'intéresse pas, quoi. Ouais. C'est-à-dire que et ça transpire dans le film, quoi. C'est clair que tu regardes, je sais même pas. Je crois que dans Snatch, il y a même pas de personnage féminin. C'est mais peut-être même juste une petite scénette, quoi. Et dans Anacri Botanique non plus, quoi.
Encore moins.
Donc c'est vraiment et de toute façon, à l'époque où Guy Ritchie était marié avec Madonna, il a après leur rupture et tout, il s'est toujours vanté. Ça a toujours été le gars qui s'est vanté d'avoir de l'avoir un peu brisé, quoi. Tu sais, il y a vraiment chez ce mec un côté. Un côté ultra, ultra sexiste, quoi, c'est clair.
Mais alors, moi, mon ressenti, en tout cas, par exemple, pour The Gentleman, c'est qu'effectivement, je me dis toujours, bon, je pense que c'est son dernier film où il y a aussi peu de meufs et peut-être que le film d'après. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je pense ça. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai envie de le pré-excuser en train de... Parce qu'il y a un truc où ça m'a un peu gêné, j'avoue. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est comme si, socialement, après, j'aurais du mal à dire « j'aime ce film ». Et que je m'attends à ce que quelqu'un dise la même chose que toi, et que je sache pas vraiment défendre Guy Ritchie, tu vois.
Donc pour le défendre, tu dis c'est le dernier. Non,
promis. Non mais c'est ça. C'est et du coup dans ma tête je me dis parce que presque et c'est pour ça presque à la limite moi je dirais ben en fait vraiment ne mets aucune femme en fait. Je préfère que tu dises c'est que des gangsters entre eux, on est que dans le milieu des gangsters, et effectivement, bah, peut-être que c'est... Enfin, tu vois, je me dis, j'en sais rien, moi, il y a des deals de drogue, il y a des trucs, il y a peut-être zéro femme, en fait. Donc, fais-le sans femme, et alors, je sais pas ce qu'il essaye justement de dire par le truc de le havre de paix, le garage féminin, est-ce que... bah, en fait, moi, j'ai envie de lui dire, Guy Ritchie, bah, en fait, t'as qu'à produire une meuf qui va faire la même chose, mais qu'avec des meufs. Elle va faire un film... qu'avec des meufs, où il va y avoir qu'un mec pas dans son truc. Mais un bon film, c'est-à-dire que là, et je reviens à ce que j'ai dit au tout départ, le Birds of Prey, machin, Birds of Prey, quasiment tout le monde, tous les acteurs sont des meufs, mais c'est juste mal écrit, quoi, t'as juste pas envie de regarder le film. Donc
voilà. Non, mais après, c'est sûr que... De toute façon, ce personnage féminin, il participe aussi au packaging un peu type publicité GQ en général. Oui. C'est-à-dire que c'est un objet de fantasme. Oui. Quoi. C'est-à-dire on voit que le mec de base, il va dire « Oh là là, cette meuf avec ses loup-boutins sort de la BMW Tuning, c'est mon rêve. » Oui,
c'est ça aussi.
Ça sert à ce packaging-là aussi. Et c'est vrai que leur relation... Pour moi, ça sert à... franchement, tu regardes des films comme Le Parrain, la position de la femme dans Le Parrain, c'est chaud, quoi. Et du coup, c'est pour... C'est peut-être... Est-ce qu'il est dans cette... Il veut faire survivre cet héritage-là? Tu sais que Martin Scorsese, récemment, il a beaucoup... par rapport à la... il a eu beaucoup de soucis dans la presse critique par rapport à The Irishman où il y avait beaucoup de rôles de femmes, des femmes qui parlaient quasiment pas et tout, et lui il l'a très mal pris. Est-ce qu'il veut continuer cet héritage là aussi, je sais pas, mais c'est clairement un truc du passé, quoi.
Mais tu vois, mais pour comment ça se fait, ouais, mais c'est ça, parce qu'en fait parce que j'allais dire comment ça se fait que moi ça me choque pas dans des Scorsese et que là ça me gêne un peu, c'est qu'en fait dans les films de Scorsese, il n'y a aucune revendication de la masculinité. Alors qu'ici, il y en a, mais que du coup, il n'y a pas la contrepartie. Et après, bon, aussi, ce n'est pas pour enfoncer le clou, mais c'est vrai que tu vois, bah, Diane Keaton dans Le Parrain, le personnage va aussi influer par rapport à des actions et une pression interne au moins que peut avoir Michael Corleone, en fait. Dans est-ce que j'arrête ce monde ou pas, est-ce que je rentre dedans ou des choses comme ça. Alors que là, tout le monde.
Non,
est
mais
d'accord.
Ou alors on peut voir peut-être le truc à l'envers, parce que je pensais à, quand je voyais ce film, je pensais à Ocean's Eleven. Tu sais, je me disais, est-ce qu'un film comme Ocean's Eleven pourrait ressortir aujourd'hui? Et est-ce que, et c'est là où moi je serais assez d'accord, c'est que est-ce que dans la volonté de se faire ce film aujourd'hui par Guy Ritchie, est-ce que c'est pas aussi le moyen de revendiquer le droit de le faire, tout simplement?
Ouais.
De dire,
ouais,
c'est pas parce que on vit dans une société ultra clivée de partir dans les tours pour le moindre truc, que voilà, moi j'ai envie de le faire. Et il y a peut-être ça aussi, il le fait peut-être pour revendiquer son droit de
oui,
le faire.
Oui, mais il n'a jamais pas eu le droit. Donc en fait, revendiquer le droit de faire un truc que personne ne t'a jamais interdit de faire et que tout le monde fait allègrement depuis des années, bof.
Non mais en fait, tu vois, c'est-à-dire que l'excès de machisme, en fait, pour moi, c'est aussi une réponse un petit peu de peur, tu sais, de
oui,
dire...
Totalement.
Voilà,
oui, mais
c'est ça, moi je le vois un peu comme ça.
Irrationnel et ridicule, quoi.
Oui, mais bon, après, tu sais, l'art, de manière générale, ça vient de plein de trucs internes, quoi. Guy Ritchie, c'est ça qui vit en ce moment. Bon, en tout cas, cela dit, sans rentrer, même si c'est intéressant à ce point d'analyse, c'est-à-dire que c'est un film, je pense que t'as bien nailé le truc, Jean-Yves, c'est un film magazine, c'est un film... que genre, tu vois, tu feuillettes, c'est papier glacé, c'est ça, c'est joli,
bah après,
tu
voilà,
as envie de jouer.
Et puis après, clairement, est-ce qu'on peut dire que si on est client de Snatch, on va être client de The Gentleman, clairement?
Bah non, je te dis, parce que moi, Snatch, j'avais beaucoup, beaucoup...
C'est vrai?
Ouais, Snatch, j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Après, ça fait très longtemps que je l'ai vu aussi, donc peut-être que...
Oui,
voilà,
le,
j'avais adoré Snatch, moi.
Et tu as changé depuis aussi. Oui, non, mais après, enfin, voilà, c'est un film de... Moi, les films de gangsters, en ce moment, j'adore. Donc,
c'est divertissant,
ouais,
c'est divers.
Ouais, totalement. Et donc voilà, pareil, hein, disponible en VOD, il me semble.
Oui.
Oui. Donc, à prendre dans ces prochaines semaines et à regarder. Est-ce que vous avez vu d'autres choses récemment dont vous voulez parler?
Et juste, je voudrais juste finir là-dessus avant de passer au truc, c'est par rapport au budget, et c'est encore le talent que je reconnais à Guy Ritchie sur sa qualité pour habiller, tu sais, de faire de la paillette, c'est qu'il y a un budget sur ce film de 20 millions de dollars quand même,
ah,
ce qui est vraiment pas beaucoup,
ouais, surtout vu
au vu du casting,
ouais.
Et qui est en worldwide à plus de 120 millions, je crois, donc très beau succès commercial,
ouais.
Et du coup, la capacité de ce gars... pour l'enrobage, en fait, tu vois, parce que vraiment, peut-être qu'on a l'impression que c'est fou en termes d'argent, mais peut-être que lui, il a juste la capacité d'enrober les choses, quoi. C'est ça aussi.
Ouais, carrément. Nous, on n'a pas vu énormément de films ces derniers temps, à part ça. On a vu Spider-Man Into the Spider-Verse.
Ah, oui.
Enfin, moi, je l'ai revu. J'adore ce film.
Ouais.
Il faut vraiment le regarder. Je trouve que, malheureusement, enfin, comme d'habitude, les... Major, là, les Marvel, les Disney, etc., ils se permettent plus de choses dans les films d'animation que ce qu'ils font dans les films live-action, alors que tu refais exactement le même film, et il y a les moyens technologiques de faire, maintenant, on fait tout avec des effets spéciaux, tu fais exactement le même film en live-action, et je pense que ce serait génial, parce que c'est bien écrit, c'est émotionnellement, genre, enfin, je passe, genre, il y a deux scènes où j'ai presque les larmes aux yeux, etc. Sauf que les gens vont dire, ben, il y a toujours le dédain par rapport au film d'animation, tu vois. Et il y a toujours ce
tu
dédain.
Tu crois qu'il y a encore ça?
Oui. Bah,
alors,
non,
moi, c'est,
ah
moi
oui,
je l'aurais pas regardé si tu l'avais pas mis. Je l'aurais pas regardé, mais pas par dédain. Parce que vraiment, je pensais que c'était pas pour moi. Je me suis dit, c'est vraiment un truc qui me semblait plus pour enfants.
Ben, c'est ça. C'est un truc qu'on catégorise,
ah oui,
le film d'animation, mais c'est pour ça d'ailleurs qu'entre parenthèses, les gens, ils préfèrent faire des live action, c'est que ça va rapporter aussi plus de thunes si c'est un bon film. Et moi, en tant que défenseur des comics, je dirais, j'aimerais bien avoir un live action qui a ce scénario-là, parce qu'il est vraiment super bien ficelé, ce scénario, c'est très bien écrit, les dialogues sont géniaux, et mais non, on le fait pas en live action parce que c'est trop audacieux, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas peur de tuer certains protagonistes, on n'a pas peur de dire des choses, on n'a pas peur de... Et le problème, c'est que, comme d'habitude, le risque, on préfère le prendre en film d'animation plutôt qu'avec des acteurs. Donc bon. Mais bon, ça change en rien que par contre, le fait que ce soit un film d'animation permet des choses assez folle et très très intelligente d'un point de vue d'animation. Je veux dire un exemple très très simple, c'est que Spider, enfin le protagoniste Miles Morales, au début il est animé je crois en 20 images ou 15 images par seconde, donc c'est un peu saccadé mais c'est voulu, et en fait tout au long du film, parce qu'il acquiert ses pouvoirs et une maîtrise de ses pouvoirs, il est animé avec plus d'images par seconde, donc il est plus fluide et par rapport au reste du monde. Et donc je trouve que c'est, enfin, le fait de faire ça comme ça aussi d'un point de vue presque subliminal, c'est vraiment génial. Au moins, tu vois, ils ont utilisé tout le full potentiel de l'animation, et ça c'est cool.
Je veux dire. Non.
Non. Okay. Et sinon, on a vu une série, une mini-série Netflix qui s'appelle Unorthodox.
Ah yes.
C'est je m'attendais pas à grand chose. Et j'ai été très, très bien surprise dans le bon sens. C'est très chouette, c'est 4-5 épisodes, je ne sais plus. 4 épisodes, ouais.
D'une heure, je pense, c'est
ça. Ouais, à peu près. Donc, d'une très jeune femme de 19 ans qui fuit sa communauté juive ultra-orthodoxe de Brooklyn et qui fuit pour aller vers l'Allemagne. Donc, il y a des flashbacks avec sa vie d'avant et les flashbacks de sa vie de maintenant. Et moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce que, déjà, c'est un film qui est en... Il y a peut-être 70% des dialogues qui sont en yiddish. C'est quand même un truc qu'on n'entend jamais. Donc, voilà. Et c'est une culture qui est très... qui, pour moi, est très mystérieuse, très... voilà, très, très inconnue, très pleine de fantasmes aussi. On ne sait pas trop ce qui s'y passe. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant d'en savoir un petit peu plus. Sur cette
C'est ces femmes dont on rase la tête et qui portent des perruques, c'est
oui,
ça?
Oui, c'est ça. Mais alors, en plus, c'est sa communauté, c'est les Satmar, je crois.
Ouais,
une communauté très particulière, parce que je me suis renseignée un peu dessus après.
Des orthodoxes qui viennent de Hongrie.
Uniquement de Hongrie, d'un village en Hongrie.
Et qui se sont créés post-guerre.
Voilà, qui sont... Deuxième Guerre mondiale. En fait, c'est une communauté qui n'existait pas avant la Deuxième Guerre mondiale, et donc qui n'a été... constitué que par des survivants de la Shoah. Donc, c'est une communauté qui est totalement imprégnée du traumatisme, peut-être plus que les autres de la Shoah, et dont la mission pour eux est de repeupler, mais elle le dit dans la série, c'est repeupler les 6 millions qui ont été perdus.
Ouais. J'ai refait des gosses pour combler le manque des 6 millions. Quoi.
C'est ouf parce qu'avec Sophie, là, quand on était à New York récemment, à la douane, à l'aéroport, on avait donc un groupe de meufs comme ça juste devant nous.
Ouais.
Elles étaient genre 5 ou 6. Et on était hypnotisés. Je les regardais, je me disais, bon, il faut arrêter. Je n'arrivais pas à détourner le regard tellement c'était un objet de fascination.
Oui.
C'est-à-dire que vraiment... En apparence même, et c'est ce que tu dis, enfin le truc de la Seconde Guerre mondiale, c'est assez ouf parce que du coup, je disais à Sophie, on dirait qu'il y a un portal et que les gens sont littéralement venus des années 40, quoi. Dans tout, tu sais, leur style, leur attitude, vraiment, il y avait un décalage, un espèce d'anachronisme incroyable. Et je l'ai regardé ça, et j'étais hypnotisé, quoi. C'était assez fou comme expérience.
Ouais, donc en tout cas, ouais, cette série est vraiment très... Enfin, moi, j'ai vraiment...
Ouais, je vais la regarder.
Ouais, c'était très prenant. Et moi, comme je disais, pour rebondir sur le truc d'Emma tout à l'heure par rapport au téléfilm Monte Cristo, je trouve que les mini-séries, les choses, tu sais, qui sont un peu longues... Voilà, là, c'est 4 heures, mais 4 heures que tu passes avec... avec une histoire, je crois que je préfère ça qu'à, tu sais, une série où il y a 3 épisodes de trop,
oui.
Ou alors un film, voilà, qui est peut-être un petit peu bancal parce qu'il n'est pas assez long, des choses comme ça. Là, une mini-série, je trouve que ça peut être une bonne veine aussi pour Netflix, faire plus de mini-séries plutôt que des séries avec 13 épisodes qui sont chiantes, quoi. Là, il y a le nectar de ce qu'il y a. C'est très bien joué.
Qu'est-ce que c'est ? Vous avez compris ce truc de... Vous avez vu sur l'algorithme top 10 en France, il y a un film genre turc inconnu en numéro 1. Vous avez pas vu
ça ?
Ouais.
J'ai pas compris. À mon avis, je me demande s'il n'y a pas eu un biais de... C'est une sorte de... Un biais de réaffirmation, c'est-à-dire que peut-être à un moment il y a eu rien et il est arrivé en 10e position et tout le monde s'est dit bah, je vais le regarder vu qu'il est en 10e position et du coup il prend la.
Je croyais un billet de Erdogan pour le mettre en temps sur un truc trop bizarre. Mais peut-être, mais bah, apparemment ça a l'air bien. Faudra regarder ça. Moi j'ai regardé un petit film, une petite VOD, enfin un petit replay Canal+, un film qui s'appelle Tueur avec Olivier Gourmet, film de braquage qui date de 2017 que j'avais raté au ciné, que j'avais voulu voir parce que ça avait été vendu par un gars. C'est réalisé par un gars qui était genre vraiment braqueur, tu sais, genre voilà. Et en fait, c'est pas très bien. pourtant j'aime bien les films de braquage en général, tu vois, genre ça surfe un peu sur, il y a des petits clins d'œil à Hit. Et c'est typiquement l'exemple du, pourtant Olivier Gourmet est un super bon acteur, oui, et j'adore. Là c'est pas ouf. C'est pas très bien écrit. Alors les scènes de façon isolée en divertissement, les scènes de braquage sont très cool, elles sont bien réalisées, enfin on sent qu'il y a du vécu quoi. Mais c'est pas bien joué. Et des fois, c'est cool aussi de revoir ce que c'est un film qui est pas bien joué, quoi. Ouais. Et c'est tellement ennuyeux, quoi. Les gens qui, tu sais, ils disent un dialogue, mais ils sont même pas convaincus du dialogue, quoi. Genre, et c'était un peu chiant, du coup. Voilà.
Mais ça, c'est le problème aussi de donner la mise en scène d'un film à quelqu'un qui, tu vois, qui a pas assez d'expérience
en termes
de direction d'acteur, quoi. Parce que...
C'est ça.
Ouais. Mais, ok, donc à ne pas voir, hein, personnellement, parce que je vois ce que tu veux dire, c'est bien d'en voir, mais bon, j'ai l'impression d'en voir trop déjà. bon, bah écoutez, bah, je crois qu'on a terminé.
C'était bien.
Merci à vous tous. N'hésitez pas, tu peux continuer à nous envoyer des petits mémos vocaux de recommandations. Hein, on les passera pour les futurs épisodes de podcast. Mettez 5 étoiles sur Apple Podcast, vraiment, avec un commentaire s'il vous plaît, comme ça, parce que quand on met que 5 étoiles, ça se voit pas, alors que si on met un petit commentaire avec, je crois que ça augmente l'algorithme, et donc Fin de Séance sera plus connu, et donc on pourra enfin devenir riche grâce à nos critiques.
On pourra enfin boire des pina coladas aux Caraïbes,
un truc n'importe quoi. Ocean's Eleven, en fait, depuis le début, ils auraient dû créer un podcast à 11. Et on se rejoint bientôt, probablement pour un épisode top 10 décennies. On va essayer de mettre ça au point. On va essayer d'être 4, un truc comme ça, et faire un top 10 des années 2010. Ça peut être cool.
Ça va être trop bien.
Yes. Bon, allez, bisous à tous.
Bisous, bisous.
Bye.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.